Les rencontres de Pétrarque. Hervé Gardette.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 34e rencontre de Pétrarque, consacrée cette année à la mondialisation, à ses bouleversements et ses remises en cause. Hier, nous étions en compagnie de l'écrivain Éric Orsena, de l'économiste Isabelle Méjean et du syndicaliste paysan José Bové pour évoquer la question de la relocalisation des activités. Aujourd'hui, nous élargissons la focale pour nous intéresser à la question de la gouvernance mondiale. C'est peu de dire que les instances du multilatéralisme se portent mal, du fait notamment du retrait américain et de la montée des nationalismes. La pandémie de coronavirus, qui aurait dû relancer la coopération puisqu'il s'agit d'une crise mondiale face à un ennemi commun, cette pandémie n'a pas inversé la tendance, au contraire. L'Organisation mondiale de la santé s'est ainsi retrouvée critiquée de toutes parts pour sa gestion de l'épidémie et sa dépendance au pouvoir chinois. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il lui aura fallu 3 mois pour voter une résolution réclamant l'arrêt des conflits pour faciliter la lutte contre la pandémie. Alors est-ce à dire que le multilatéralisme dont le monde a hérité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a fait son temps? À qui confier le gouvernement du monde? Question que je vais poser ce soir à mes 3 invités, à commencer par vous, Monique Chemillet-Gendreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur émérite à l'Université Paris Diderot. Vos travaux sont consacrés en particulier au droit international et vous publiez ces jours-ci pour un Conseil mondial de la résistance aux éditions textuelles, texte dans lequel vous appelez notamment à la dissolution des Nations Unies pour les remplacer par quoi? Eh bien, on aura l'occasion d'en discuter d'ici 19h et d'en discuter avec 2 autres invités qui eux sont à distance. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes médecin, ancien président d'Action contre la faim, diplomate. Vous avez été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Et puis, bien sûr, écrivain. Je citerai votre dernier roman chez Flammarion, Le flambeur de la Caspienne, dont je ne sais plus alors s'il est déjà sorti ou si sa sortie a dû être un peu retardée à cause du confinement. On est obligé de demander ça en ce moment.
Les deux. C'est-à-dire qu'il devait sortir en mars et il est sorti le 17 juin finalement.
Bah, donc il est bien sorti malgré tout. Voilà. 3e invité, Justin Weiss, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous êtes historien, ancien directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie au ministère des Affaires étrangères et vous êtes aujourd'hui le directeur général du Forum de Paris sur la paix, dont la 3e édition se tiendra en novembre prochain. Je vais commencer par vous, tiens d'ailleurs, Justin Weiss, et revenir sur ce que j'évoquais dans le lancement de l'émission. Cette résolution qui a été adoptée hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU pour réclamer l'arrêt des conflits dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19. Est-ce que ce que vous retiendriez, vous, en premier lieu, c'est le fait que cette décision a été prise à l'unanimité ou bien c'est qu'il a fallu 3 mois pour arriver à prendre cette résolution?
Oui, en fait, il a fallu plus de 3 mois. Je pense que ce qu'on a vécu au premier semestre 2020, c'est une formidable régression d'un multilatéralisme qui se portait déjà mal, en réalité, qui n'avait cessé de se détériorer au cours des années 2000 et 2010, à cause des tensions entre grandes puissances, à cause des populismes qui contestent la nécessité même, en fait, d'une gouvernance mondiale. Pour toutes ces raisons, on était dans une situation pas très brillante, à laquelle justement le Forum de Paris sur la paix tentait d'apporter un début de réponse. Et voilà la crise de Covid-19 qui arrive. Et au lieu justement, comme vous le disiez, de précipiter davantage de coopération, ce qui aurait fait gagner tout le monde, on s'aperçoit que les pays se sont refermés largement sur eux-mêmes, sont entrés en compétition les uns avec les autres sur les masques, sur le matériel médical. Ils ont fermé les frontières sans en parler. Alors, il y a eu quelques améliorations ensuite, mais enfin, en gros, la situation n'est pas très brillante et le début de bilan est plutôt mauvais.
Est-ce que vous partagez ce diagnostic, Monique Chemillet-Gendreau?
Oui, tout à fait. Et pour moi, le multilatéralisme va mal depuis plus longtemps que ça. Parce que je pense que le cœur du multilatéralisme, quand même, tel qu'il a été pensé au moment des Nations Unies, c'est le mécanisme de la sécurité collective. Et ça, c'est un mécanisme qui était valable en soi. Si on n'avait pas eu le ver dans le fruit, c'est-à-dire l'histoire des membres permanents et de leur droit de veto, qui a tout corrompu depuis le début. Donc le mécanisme de sécurité collective, bien pensé, mais avec malheureusement ce handicap fondamental, il est en échec aggravé, en réalité, depuis la guerre froide, c'est-à-dire depuis le moment où on n'a pas mis en œuvre l'article 47 de la Charte, qui aurait permis des forces d'intervention mises à la disposition du Conseil de sécurité de manière permanente, de vraies forces internationales. L'échec a été aggravé considérablement en 1990-91 avec la première guerre du Golfe, où là, le Conseil de sécurité, au lieu de reprendre les choses à la base, et ça aurait été possible puisque la guerre froide était finie, s'est contenté de dire aux États, avec la résolution 661, bah, allez-y tous, allez empêcher Saddam Hussein d'envahir le Koweït. Et donc ce mécanisme de sécurité collective, il n'a cessé de se dégrader. Et aujourd'hui, on le voit bien, parce qu'on parle de la pandémie, mais parlons quand même de ce qui se passe en Syrie et de ce qui se passe en Libye. On voit bien que le Conseil de sécurité est aux abonnés absents. Et ne parlons pas, évidemment, de l'annexion de la Palestine.
Ce qui est très étonnant, Jean-Christophe Ruffin, c'est que, justement, par rapport à cette notion de sécurité collective, autant dont les précédentes crises, on pouvait, à la limite, comprendre que le multilatéralisme marche mal parce qu'il y avait des pays qui étaient concurrents, voire qui étaient en conflit. Or, là, l'ennemi commun, l'ennemi, je ne sais pas si c'est un terme que vous retiendriez, mais enfin, en tout cas, l'adversaire commun, c'est un virus. Il aurait dû y avoir, au contraire, un retour du multilatéralisme. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, c'est-à-dire d'avoir vu notamment ce Conseil de sécurité totalement absent de la gestion de la crise, d'une crise mondiale?
Je pense qu'en réalité, ça remonte encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est dès la constitution de ce système, c'est-à-dire en fait dès la création des Nations Unies, il y a eu une série de fractures. C'est-à-dire que ce système a été conçu sur une opposition entre les alliés au moment de la Deuxième Guerre mondiale et les puissances de l'Axe. Bon, et puis tout de suite, la paralysie s'est faite parce que l'opposition Est-Ouest, à partir de la guerre de Corée, est venue paralyser ce système de sécurité collective. Ça a duré jusqu'à la fin de la guerre froide, ça a donné place à une toute petite embellie dans les années, on pourrait dire les années 90, avec des grandes opérations de maintien de la paix. On avait l'impression que ça pouvait fonctionner, que de nouveau les membres permanents étaient peut-être en phase. Et depuis, les fractures, au contraire, se sont aggravées. Et finalement, on aboutit à cette espèce de morcellement général. Moi, je ne crois pas du tout que le fait que ce soit un virus, si vous voulez, soit en question, parce que en réalité, ce qui compte, c'est l'attitude de ces puissances les unes par rapport aux autres. Ça n'est pas une guerre, c'est plutôt une manière de refuser finalement la pression multilatérale et de se replier. C'est à la tendance finalement continue sur des décisions souveraines. Et au fond, l'idée du virus, c'est au contraire une sorte d'occasion rêvée, encore une fois, pour un État de se présenter comme le protecteur de sa propre population et donc de s'affranchir de toute contrainte multilatérale. Donc finalement, je dirais que cette évolution est continue et dans un sens qui malheureusement n'est pas du tout favorable, et que en faisant l'histoire de ces 50, 70 ans, on voit que ça a très peu fonctionné.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que pour que le multilatéralisme fonctionne, si ce n'est bien, en tout cas moins mal qu'il ne fonctionne aujourd'hui, il y a aussi peut-être la nécessité d'avoir davantage de leadership? Or, aujourd'hui, sur la scène internationale, on est bien en mal de dire qui peut assurer, qui est en mesure d'assurer ce leadership mondial, Justin Weiss.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer que le multilatéralisme peut fonctionner de façon abstraite. Et moi, c'est un petit peu la remarque ou l'objection que je ferais à ce que disait Monique Chemillet-Gendreau tout à l'heure. C'est-à-dire, bien sûr, ces membres permanents du Conseil de sécurité, d'un certain point de vue, ça a corrompu les choses, mais ça a aussi rendu possible et acceptable la constitution du système de sécurité dont on avait vu lors du premier brouillon, en quelque sorte, ou dans le premier essai, la SDN, que si l'on ne prenait pas en compte, disons, la réalité des rapports de puissance, on ne pouvait pas y arriver. Et donc, si on regarde la situation maintenant, le déclin du leadership américain est même pire que ça. Le fait que les États-Unis sous Trump se tournent contre ce système dont ils avaient sous-tendu, en fait, pendant toutes ces pendant toutes ces années, comme disons la mer se retire de la plage, laisse visible la fragilité d'un système qui est censé se tenir tout seul, mais en fait où derrière les arrangements institutionnels, derrière par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, s'il n'y a pas de leadership, s'il n'y a pas de structure, de système, disons, de puissance qui permet, qui rend possible le fonctionnement de ces institutions, ça ne fonctionne pas. Or, c'est exactement ce qu'on voit à présent. Il n'y a plus de leadership américain. C'est lui qui avait fait fonctionner l'ensemble plus ou moins bien. Hein. C'est loin d'être, disons, irréprochable. Au contraire, beaucoup de, disons, beaucoup d'arrangements avec ce système. Mais enfin, cas un cas, ça avait fonctionné et c'est bien le diagnostic qu'il faut poser maintenant. C'est un manque de leadership sur des institutions qui en ont besoin.
J'aimerais savoir ce qu'en pense et Monique Chemillet-Gendrault et Jean-Christophe Ruffin. Je commence par vous, Monique Chemillet-Gendrault.
Oui, non, mais moi je ne partage pas ce point de vue parce que je ne crois pas que ce soit un manque de leadership. Je ne suis pas pour le leadership. Nous habitons un monde qui est actuellement composé de peuples extrêmement divers, avec des populations très variées, multiples, opposées les unes contre les autres par leur culture, leur religion, etc., qu'il faudrait arriver à réunir pour créer un monde commun, qui soit un monde vivable. Et quand on parle de multilatéralisme, on ne pense qu'en termes d'État et on cherche un leadership entre les États. Moi, je crois qu'il faut aller vers une organisation mondiale des peuples, que tous les peuples soient représentés, pas seulement ceux qui ont une existence d'État. Et d'ailleurs, quelquefois, à l'intérieur d'un même État, il y a plusieurs peuples. Donc je pense qu'il faut une autre représentation du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut gommer les communautés nationales. Elles ont une histoire, elles existent, il faut les prendre en compte. Mais il faut les prendre en compte et les combiner avec d'autres prises en compte, d'autres forces, d'autres réalités, pour avoir une représentation du monde dans laquelle les gens se reconnaissent, les peuples se reconnaissent. Actuellement, personne ne se reconnaît dans l'ONU. Et c'est pas parce qu'il y aura un meilleur leadership qu'on se reconnaîtra mieux. Moi, j'ai pas envie d'un chef. J'ai envie d'une organisation dans laquelle les peuples du monde se sentent bien.
Alors, il se trouve qu'on a un diplomate parmi nous, en la personne de Jean-Christophe Ruffin, qui va peut-être trouver une voie médiane entre ce que dit Monique Chemillet-Gendrault et ce que dit Justin Weiss.
Oui, je suis diplomate, disons que j'ai exercé des fonctions diplomatiques, mais non, en réalité, moi je suis plutôt sur la ligne de Justin Weiss, c'est-à-dire que je pense que l'idée même de multilatéralisme, c'est quand même une idée américaine et même démocrate américaine, on pourrait dire. C'est-à-dire que par opposition à l'ancien monde que représentait l'Europe, l'utopie américaine, l'utopie des Pilgrim Fathers et des créateurs des États-Unis, c'était l'idée finalement d'un monde neuf dans lequel la guerre, le recours aux armes, le recours à la violence serait banni au profit d'une discussion, au profit d'un vote, au profit d'une sorte de démocratie en acte. Et régulièrement, les Américains ont essayé d'organiser le monde comme ça. C'est Woodrow Wilson, les 14 points à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était ça, c'était cette idée avec la création de la Société des Nations. Malheureusement, les Américains n'ont pas voulu y entrer, les Russes, à cause de la Révolution, n'en ont pas fait partie. Donc la SDN n'a pas fonctionné. Et c'est seulement quand, en 1945, les États-Unis et les Alliés en général étaient en position de pouvoir imposer ce système qu'ils l'ont repris sous l'égide de Roosevelt. Autrement dit, il y a quand même, indépendamment du leadership de puissance, si je puis dire, il y a un leadership philosophique derrière tout ça, qui est, je trouve, très américain, c'est-à-dire dans cette manière, en effet, de vouloir substituer à la violence, à l'affrontement, à la guerre, le vote avec un État, une voix, donc d'organiser la communauté internationale. Et je ne suis pas sûr, donc indépendamment de la puissance des uns et des autres, si vous voulez, que tout le monde partage cette vision philosophique. Je suis pas sûr que les Russes d'aujourd'hui, hérités du monde soviétique quand même, ou que les Chinois, qui sont encore dans une autre forme d'organisation politique, partagent cette idée. Je pense qu'ils sont beaucoup plus confucéens, ils sont beaucoup plus dans cette idée d'opposition finalement, et que pour beaucoup de peuples finalement, et en tout cas beaucoup de gouvernements, l'idée d'affrontement, l'idée de régler les problèmes par la force est beaucoup plus finalement opérationnelle que cette utopie américaine du multilatéralisme qui a prévalu après la Deuxième Guerre mondiale.
Puisque vous avez utilisé ce terme de puissance. Est-ce que ça n'est pas aussi une crise de la puissance que révèle cette crise du multilatéralisme, Monique Chemillet-Gendreau? C'est-à-dire que la puissance, on l'a longtemps pensée, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, d'abord comme une puissance militaire. Oui. Alors bien sûr, il y a la diplomatie, il y a la politique, mais il y a aussi le militaire. Mais est-ce que, je reviens quand même à cette crise du coronavirus, est-ce que les pays les plus puissants, c'est-à-dire qui ont montré le plus d'efficacité, n'ont pas été ceux qui étaient le plus puissants militairement, mais ceux qui étaient les mieux gouvernés et qui arrivaient le mieux à affronter cette crise?
Ben, il est quand même évident qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du monde en les pensant à partir d'un point de vue militaire.
Moi, je pense même que si on nous a dit qu'on était en guerre contre la COVID-19.
Moi, j'ai pas du tout aimé cette métaphore. Non, je pense que l'une des carences fondamentales des Nations Unies, c'est d'avoir mis au panier l'article 26 de la Charte dès le lendemain de sa signature. L'article 26, c'est celui qui dit que le Conseil de sécurité doit réglementer les armements de manière à n'utiliser pour cela que le minimum des ressources économiques et humaines du monde. C'est un article magnifique qui allait avec la pensée d'origine des Nations Unies, qui était, mais qui n'a pas duré longtemps, qui était « il n'y aura plus de guerre que dans deux cas, la légitime défense pour un État qui serait tout d'un coup attaqué par un État déviant, puisqu'il y a une interdiction du recours à la force pour tout le monde, et puis les mécanismes de sécurité collective, justement, mis à la disposition du Conseil de sécurité quand il y a une raison de les utiliser. » Donc, dans cette philosophie-là, on devait aller vers une réglementation drastique des armements. Personne n'a jamais utilisé ce texte, on ne l'a jamais mis en débat au Conseil de sécurité, et on a laissé notamment les grandes puissances et notamment les 5 membres permanents devenir de très grands fabricants d'armes, marchands d'armes, etc. Et puis il y a eu le nucléaire par là-dessus. Et donc on est dans un monde de plus en plus dangereux. Plus le monde est armé, plus il est dangereux. Il y a eu dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, un article d'un général français qui disait « il faut se préparer à l'idée qu'on aura désormais des guerres État contre État ». C'est-à-dire exactement l'échec complet des Nations Unies, puisque c'est ça que les Nations Unies ne voulaient pas. Donc voilà, moi je ne pense pas que les solutions soient militaires, je pense qu'il faut retourner le problème complètement, il faut remettre les peuples à la base, et il faut remettre comme but du multilatéralisme, un multilatéralisme entre les peuples, l'idée d'une société juste et bonne, et pas simplement une société sans guerre.
Justin Veil, est-ce que vous diriez que cette pandémie, elle a remis en cause la notion de puissance, ou en tout cas, elle a peut-être montré que la façon dont la puissance était considérée, notamment par les Nations Unies et par son Conseil de sécurité, était quelque chose de relativement peu opérant par rapport à une telle crise?
Alors, en partie, oui, mais en partie seulement, parce que la puissance, c'est une notion relationnelle. La puissance, ça reste quand même la capacité de faire aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent et de les empêcher de vous contraindre à faire ce que eux souhaitent que vous fassiez. Vous voyez, c'est ça à la base. Et puis, il y a d'autres aspects de la puissance. Enfin, tout de même, c'est une notion relationnelle. Or, des bonnes statistiques d'infection et de taux de mortalité, une bonne cohésion sociale, c'est-à-dire tous ces atouts qui ont joué pour des pays comme la Nouvelle-Zélande, leur ont pas donné un surcroît de puissance à proprement parler. Il y a eu des effets d'image, y compris sur la Chine et les États-Unis. Et évidemment, c'est très important parce qu'il s'agit à présent des deux grandes puissances qui toutes les deux ne sont pas sorties indemnes de toute cette affaire-là. Est-ce qu'elles ont perdu en puissance? En partie, oui, parce que leur crédit est entamé, parce qu'on a vu pour l'une que ces pratiques de mise au secret le fait de ne pas laisser les scientifiques s'exprimer, le fait de réprimer les lanceurs d'alerte, le fait de ne pas être transparent sur les chiffres, de ne pas communiquer à l'OMS. On pourra revenir peut-être sur ce qui s'est passé en janvier 2020, mais je pense que l'OMS, très critiquée, a fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en son pouvoir, mais son pouvoir est limité. Quant aux États-Unis, on a vu le degré d'impéritie et de mauvaise gouvernance que l'administration Trump a démontré. Et donc, en effet, ils ont chacun perdu en prestige et un peu en puissance. Le problème, c'est plutôt, vers ça, à mon avis, quand on pose la question à qui confier le gouvernement du monde, le problème, plutôt un des problèmes fondamentaux maintenant, c'est plutôt celui de la souveraineté plutôt que celui de la puissance, c'est-à-dire d'une souveraineté bien régulée. C'est un peu comme l'ego, si vous voulez, entre les gens. Il faut un peu d'ego, parce que sinon on ne peut pas être en société, mais il n'en faut pas trop, parce que sinon on est insupportable et la société ne peut pas fonctionner si chacun se met en avant. Là, la souveraineté, c'est un peu pareil dans la société. société internationale. La souveraineté, il en faut absolument pour que le multilatéralisme fonctionne. Il faut que les pays existent et puissent, contrôler ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières et qu'ils puissent exprimer leurs besoins et négocier avec les autres. Mais il n'en faut pas trop parce que sinon, ils ne peuvent pas coopérer. Et c'est un des problèmes actuels, c'est ce renforcement, pas simplement de la souveraineté, mais aussi du souverainisme, qui rend beaucoup plus compliqué le fait de se mettre d'accord à plusieurs. C'est le multilatéralisme, c'est sa définition de base, et rend plus difficile le gouvernement du monde.
Oui, mais j'aimerais justement savoir si vous considérez tous les trois, Jean-Christophe Ruffin par exemple, que souveraineté et multilatéralisme peuvent être peuvent être conciliés ensemble. Est-ce qu'on peut concilier les deux, ou bien est-ce qu'il y a des contradictions qui sont suffisamment fortes pour qu'il faille choisir entre soit on met en avant la souveraineté, soit on met en avant le multilatéralisme?
Oui, alors, moi, je voudrais revenir une seconde sur cette question de puissance, si vous permettez, parce que dans l'affaire du virus, là, on a tout d'un coup considéré, je dirais, la puissance sous un angle tout à fait différent, puisque d'ordinaire, puisque d'habitude on juge la puissance sur la puissance militaire, sur la capacité à se projeter sur la scène internationale, etc. Alors que là, c'est intéressant de voir, par exemple, les États-Unis en matière de médecine, puisqu'il s'agissait d'une maladie. En matière de médecine, les États-Unis ont, si vous jugez par exemple par le nombre de prix Nobel, c'est le pays le plus puissant du monde. C'est le pays où la médecine est la plus en pointe du monde. Donc, en termes de puissance, de ce soft power de la recherche et de la médecine, c'est merveilleux. Mais confronté à une épidémie comme ça, eh bien, on s'est rendu compte que, à la base, c'est-à-dire pour l'homme de la rue, pour la personne qui voulait se faire soigner, alors au contraire, la médecine américaine était catastrophique. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se faire soigner, n'en ont pas les moyens, ne sont pas pris en charge, n'ont pas les assurances qu'il faut, etc. Et plus tous les problèmes légaux, etc., qui limitent l'exercice de la médecine et qui finalement font qu'ils ont une très mauvaise médecine. Et que donc, en termes de puissance, si je puis dire, l'arrière-scène de la puissance américaine en matière de santé révélait des choses catastrophiques. Donc, voilà, ce virus a donné un autre éclairage. Sur la question de la souveraineté, il est évident que très très tôt ce problème s'est posé, notamment par rapport aux Nations Unies, au fonctionnement de ce qu'on appelait le chapitre 7, c'est-à-dire que il était prévu dans la Charte des Nations Unies que les États puissent se déprendre d'un certain nombre de prérogatives, notamment militaires, en confiant aux Nations Unies des moyens pour exercer la force au nom de la collectivité. Et évidemment, au nom de la souveraineté, ça ne s'est jamais fait. Il y a eu au pire ce qu'on appelait le chapitre 6,5, c'est-à-dire les opérations de maintien de la paix armée, mais qui étaient toujours très limitées. Et si on prend un dernier exemple, qui est encore différent, mais qui est celui de la Cour pénale internationale, on voit bien que on a pu établir, disons, de bric et de broc, enfin, un système juridictionnel international, mais que finalement, les grandes puissances, au nom de la souveraineté, ne se sont jamais prêtés à l'exercice de cette justice sur leurs propres membres, ce qui fait que vous n'avez qui comparaissent devant la CPI que des gens qui proviennent de pays, on pourrait dire faibles, en tout cas de pays dont la puissance n'est pas suffisante pour que leur souveraineté soit totalement préservée. Vous voyez ? Donc finalement, indiscutablement à mes yeux, cet exercice de la souveraineté a toujours prédominé par rapport au sacrifice, entre guillemets, qui aurait pu être demandé au nom du multilatéralisme.
Vous, ce que vous dites dans votre livre, Monique Chemillet-Gendreau, pour un Conseil mondial de la résistance, c'est que cette notion de souveraineté, au départ, à la création des Nations Unies, elle a été présentée de manière tellement ambiguë que finalement, aujourd'hui, quand on en appelle à la souveraineté, ça revient à enterrer le multilatéralisme.
Mais ça enterre le multilatéralisme et surtout ça enterre le droit international. Mais parce que tout le monde oublie la définition juridique de la souveraineté. La définition juridique de la souveraineté, c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Donc pas le droit international. Et la grande contradiction de la Charte des Nations Unies, mais elle a été voulue par les grandes puissances, c'était à la fois de dire on va promouvoir le droit international, on va mettre sur pied l'interdiction du recours à la force, mais nous garantissons la souveraineté des États. Et on a employé le mot souveraineté dans son ambiguïté, comme si la souveraineté des États, c'était leur indépendance, leur liberté, etc. Mais nous sommes dans des sociétés interdépendantes, on n'en sortira pas. Et de promouvoir la souveraineté, c'est une arnaque intellectuelle, parce que il n'y en a plus de souveraineté. Il y a un philosophe, Gérard Méret, qui a fait, il y a déjà 20 ans, un petit bouquin magnifique sur le concept de souveraineté, où il montrait que c'était un concept qui est inerte, c'est-à-dire que les États qui se croient souverains, qu'est-ce qu'il leur reste de la souveraineté? Il ne leur reste pas la capacité de faire le bonheur de leur peuple, il leur reste la capacité d'exercer la police. Il reste ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, et compris d'ailleurs avec le droit de faire la guerre qui n'a pas du tout été éliminé par les Nations Unies.
Bah c'est pas rien quand même les fonctions régaliennes.
Mais c'est pas rien. Mais
la politique sanitaire, d'ailleurs, on a l'impression qu'elle est presque devenue une fonction régalienne dans cette crise.
Il y a l'État gendarme et l'État providence. Dans les fonctions régaliennes, il y a les fonctions de l'ordre et les fonctions qui permettent le bien-être social. Oui. Les fonctions qui permettent le bien-être social, regardez en Europe, heureusement qu'on va vers un multilatéralisme européen du côté de la dette, mais nous ne pouvons plus, à l'échelle nationale, assurer le bien-être des peuples. Nous sommes dans l'interdépendance, c'est un fait irréversible. Et donc la souveraineté n'a plus de sens et une nouvelle organisation devra éliminer ce concept parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Quand Justin Vest disait qu'il faudrait qu'il y en ait moins ou différentes, mais on parle aussi quelquefois de souveraineté partagée, etc. Mais ça ne correspond pas au concept juridique. C'est au nom de la souveraineté que Trump s'est retiré des traités internationaux qui avaient été passés par ses prédécesseurs. Et au nom de la souveraineté, un État fait ce qu'il veut. Si on garde le concept, on garde cela. Si on veut aller vers quelque chose de mieux, il faut tout un travail de la pensée pour se débarrasser du concept de souveraineté.
Alors essayons de nous en débarrasser, peut-être provisoirement en tout cas, ce soir de ce concept de souveraineté pour évoquer donc cette crise du multilatéralisme et puis donc cette question à qui confier le gouvernement du monde. Il y a eu un article il n'y a pas très longtemps dans le journal La Croix très intéressant autour de ces questions de gouvernance mondiale, c'était à la fin mai, qui faisait le constat que à côté des instances reconnues, il y a aussi un multilatéralisme qui s'exerce au niveau des villes, au niveau des ONG, au niveau de certaines fondations. Et d'ailleurs, vous étiez, Justin Weiss, interrogé dans cet article dans lequel vous disiez ceci. L'ONU reste centrale, mais les initiatives multi-acteurs sont une des voies de la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Oh, c'est très simple. Lorsque on s'est réuni à plusieurs pour créer le Forum de Paris sur la paix, qui réunit donc chaque année au mois de novembre des chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'organisation internationale, des ONG, des fondations, des entreprises, des universités, etc. C'est-à-dire les différents acteurs de la société internationale, au-delà justement des États, mais en les incluant parce qu'ils restent à la racine de cette société. Si on prend le point de vue de Sirius, d'un extraterrestre qui arrive sur la Terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'abord un morcellement de la Terre en 193 États. Et 193 États représentés à l'ONU. Et en même temps, il voit qu'il y a des problèmes qui concernent tout le monde, le Covid-19, la cybersécurité, les océans, tous les communs, etc., etc. Et donc, évidemment, il faut résoudre ce problème-là, qu'on vienne de Sirius, ou alors qu'on vienne, disons, de la base, et qu'on vive dans un État. Le premier rapport politique qu'on a à la puissance, à la démocratie, hein, parce que la souveraineté, c'est aussi le cadre d'expression de la démocratie, et c'est quand même très très important pour revenir un instant sur la discussion qui vient d'avoir lieu. Il faut donc parvenir à concilier ce morcellement et l'unicité des problèmes, et donc pour cela mettre les États d'accord, mais aussi se rendre compte que pour des tas de problèmes, si on dépasse la seule question de la guerre et de la paix, si on va sur ces questions médicales, si on va sur la question d'Internet, par exemple, du climat, de la biodiversité, des questions vraiment fondamentales, on voit bien que les États ne peuvent pas tout faire tout seuls. Et là, il ne s'agit pas simplement des peuples, il s'agit de tas d'autres acteurs. Regardez, prenez la santé, par exemple. l'OMS existe, mais l'OMS est prisonnière de ce dilemme de la souveraineté. C'est que l'OMS dépend entièrement du bon vouloir des États qui sont représentés. On a bien vu au mois de janvier, Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS, essayer de soutirer des informations à la Chine et donc de flatter la Chine et de dire des choses gentilles pour pouvoir avoir accès aux informations. Et on avait déjà eu ce problème-là au moment d'Ebola en 2014 et à d'autres moments. Bon, donc il y a des acteurs étatiques traditionnels, les organisations internationales, les États, mais en fait, beaucoup d'autres acteurs ont été très agiles et très efficaces. La fondation Gates, par exemple, a tout de suite réagi parce que c'est une fondation privée, parce qu'elle a les moyens et qu'elle a été un acteur de la santé depuis 20 ans très important. Des organisations qui rassemblent plusieurs acteurs, comme le Gavi, par exemple, sur les vaccins, comme le CEPI, comme United sur les médicaments, et qui rassemble à la fois des acteurs étatiques et des entreprises et des fondations, permettent, dans certains cas, limités, ça ne marche pas pour tous les domaines, mais dans certains cas limités, d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et c'est ce qu'on essaye de faire au Forum de Paris sur la paix, c'est une sorte de multilatéralisme vertical, si vous voulez, qui ne considère pas uniquement les États, mais intègre aussi d'autres acteurs, parce que sur tout un tas de sujets, on est beaucoup plus efficace quand on prend en compte ces acteurs-là. On l'a fait notamment avec un vrai impact sur la cybersécurité, où les États seuls ne peuvent pas répondre aux problèmes qui sont posés.
Vous avez fait ce même constat, Jean-Christophe Ruffin, s'agissant lors du domaine de la santé que vous connaissez bien, c'est-à-dire le fait peut-être d'élargir la conception du multilatéralisme a permis d'être plus efficace que si tout avait été concentré au sein de la seule OMS.
Oui, ben ça, je suis évidemment tout à fait d'accord. Bien sûr, sur la reconnaissance du rôle croissant d'ailleurs hein, de ces acteurs non étatiques qui agissent avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup de moyens, parce que finalement, Justin Vest citait la Fondation Gates. Bon, ce sont des poids lourds en termes de budget et donc d'action. Mais je voudrais revenir une seconde sur les institutions internationales, parce que si vous voulez, je vois bien dans la démarche, par exemple, de Monique Chemier-Gendreau, il y a un idéalisme, il y a la volonté de revenir, disons, de rebattre les cartes et de reconstruire un système international. Moi, j'attire quand même l'attention sur le fait que si on détruit ce qui existe et qui n'est pas parfait, qui est cet héritage de l'histoire et bon né après la Deuxième Guerre mondiale et puis de briques et de brocs qui a survécu, qui a été complété parfois avec des régressions, etc. Mais enfin, ce grand système international, il a quand même une vertu et je suis pas certain qu'aujourd'hui, si on remettait tout le monde autour de la table, on pourrait aboutir à une construction meilleure et même peut-être égale, parce que tout ça a quand même été le fruit d'une période très particulière, qui était l'après-guerre, dans laquelle il y avait des vainqueurs, des vaincus, une puissance dominante, etc., et une possibilité d'organiser le monde comme ça. Aujourd'hui, je doute vraiment que si on met tout par terre, on puisse reconstruire quelque chose de bien. Et si vous voulez, notamment quand on prend les organisations spécialisées des Nations Unies, bon, on parlait de l'OMS, on pourrait parler du Haut Commissariat pour les réfugiés, on pourrait parler du PAM, enfin de la FAO, etc. Ces organisations ont été construites finalement pour la plupart pendant la guerre froide, c'est-à-dire un moment où la sécurité collective, le Conseil de sécurité était paralysé, mais finalement elles se sont développées dans une relative tranquillité parce qu'elles avaient un rôle technique, si vous voulez. Et si je prends par exemple le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui applique toujours encore maintenant la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, bon, il applique un texte qui a considérablement vieilli par rapport à la situation aujourd'hui des réfugiés. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui on pourrait aboutir à un texte meilleur. Je pense que personne ne le signerait. Je pense que tout le monde, si on disait bon, on met ça à bas et on reconstruit quelque chose, je pense qu'on n'y arriverait pas. C'est peut-être un manque d'idéalisme de ma part, mais je pense qu'il faut aujourd'hui plutôt avoir une attitude protectrice et conservatrice par rapport à ce qui existe encore. C'est pour ça que, par exemple, l'attitude américaine face à l'OMS me paraît très irresponsable, parce que l'OMS n'est peut-être pas parfaite, mais la détruire en se retirant et finalement en jetant le bébé avec l'eau du bain, c'est une attitude très irresponsable, parce qu'on ne met rien à la place, et je crois que rien, malheureusement, aujourd'hui, la situation n'est pas favorable pour que quoi que ce soit se mette à la place de ces organisations, si si on les détruit.
Alors, on va peut-être justement demander à Monique Chemillet-Gendreau quelques précisions sur ce qu'elle propose. Est-ce que c'est vraiment repartir de zéro? Alors, je précise quand même, juste dans votre livre, vous vous dites, en gros, les Nations Unies, il faut quand même leur reconnaître que du point de vue du droit international, il y a eu énormément de choses. Le problème, c'est faire appliquer ce droit. Ça ne fonctionne pas. Donc, dissolution des Nations Unies pour la remplacer par ce qui pourrait s'appeler une Organisation mondiale des peuples. Qu'est-ce que ça serait alors? Expliquez-nous.
Je vais vous répondre, mais en même temps, je vais répondre à mes deux collègues. À Jean-Christophe Ruffin, sur la question de mon idéalisme, je ne crois pas du tout être idéaliste, je crois au contraire être extrêmement réaliste.
Ce n'est pas forcément un défaut à remarquer.
Non, mais je crois être extrêmement réaliste. Moi, je pense que les Nations Unies ne servent plus à rien. Est-ce que les Nations Unies vont éviter ce qui se passe en Libye? Non. En Syrie? Non. En Palestine? Non. Et nous le savons. Donc,
On pourrait ajouter Hong Kong en ce moment.
Oui, Hong Kong. Je pense qu'il est de notre devoir de penser l'après. Ça ne veut pas dire pour tout de suite, etc., mais de commencer à le mettre dans le champ de la pensée. Et c'est urgent, parce que la catastrophe peut arriver plus vite que nous ne le croyons, et là, sur les cendres, il faudra reconstruire. Donc, plus on aura pensé tôt, l'après, mieux ça vaudra. Et par rapport à ce que disait Justin Weiss sur la souveraineté et la démocratie, moi, je suis une grande lectrice d'Anna Arendt, et je me souviens que dans La condition de l'homme moderne, elle souligne que la souveraineté et la démocratie ne sont pas compatibles. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est le multiple. La démocratie, c'est le dissensus. Moi, je suis en dissensus avec mes deux collègues et en amitié avec eux. Mais je ne suis pas dans la recherche du consensus. Ah oui, je suis d'accord avec vous, etc., comme on voit dans les débats mondains. Non, il y a des conflits, il y a des différends. Nous avons des modes de pensée différents. La démocratie, c'est le multiple et c'est le dissensus. C'est le foisonnement de la vie. Et la souveraineté, c'est la réduction dans un pays donné de ce multiple au un de l'État. Et la Boétie avait déjà magnifiquement compris ça quand il écrivait son essai en le sous-titrant « Le contre-un ». Et donc, quand nous sommes représentés par un État qui parle pour nous aux Nations Unies, regardez les Américains qui sont représentés par Trump actuellement, il y a une réduction du multiple, et alors c'est là que je retrouve ce que disait Justin Weiss, qui c'est très juste, le multiple il ressort par tout ce qu'il a mentionné, les villes, les ONG, etc. Le foisonnement de la vie revient. Mais le système international n'en tient pas compte du tout. Il nous faut repenser le système international avec une autre approche, une autre entrée intellectuelle.
Et est-ce que cette Organisation mondiale des peuples, dont il faut nous expliquer un petit peu en quoi elle consisterait, permettrait d'embrasser justement cette diversité-là, Monique Chemillet-Gendreau?
Oui, parce que je crois que le gros échec des Nations Unies, c'est d'avoir très mal réglé. Elles s'appellent les Nations Unies, les membres sont des États, et le principe de base, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc on est là dans la confusion totale, et de cette confusion, ce qui a émergé, c'est que ce sont les États qui ont le pouvoir, et les États qui se reconnaissent entre eux, puisque pour entrer aux Nations Unies, il faut l'accord des autres, et notamment des 5 permanents. C'est ce qui fait qu'il y a des peuples comme les Palestiniens qui sont restés en dehors, et bien d'autres. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement de peuples, et qu'il faut une représentation à la fois des États qui existent, parce que ce sont des communautés nationales qui ont une histoire, mais quand vous avez des peuples qui, à l'intérieur d'un État, ne se considèrent pas comme représentés, il faut prévoir une possibilité de représentation. Nous avons des appartenances multiples. On peut être à la fois membre du peuple corse ou du peuple breton et ne pas vouloir effacer son appartenance au peuple français et se sentir citoyen du monde.
Donc il y aurait une représentation, une assemblée qui représenterait les pays.
Ce que j'appelle les communautés nationales. Et puis, il faut penser à côté une autre assemblée. Et je propose même, sur le plan des problèmes environnementaux, sociaux, économiques, un conseil dans lequel il y aurait à la fois des représentants des forces vives et des citoyens tirés au sort. Parce que je crois qu'on est dans un moment où il faut permettre au monde tel qu'il est d'exister, de prendre part à l'avenir du monde.
Alors, je ne doute pas que Justin Weiss et Jean-Christophe Ruffin vont avoir envie de réagir à ça.
J'espère les avoir convaincus.
On va voir ça tout de suite, Justin Weiss.
Alors moi, il y a une chose, alors je serai tout à fait dans le consensus, là, pour le coup, sur penser l'après. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai travail intellectuelle à faire, parce que les chances, enfin les possibilités, pas les chances, mais enfin les possibilités ou les risques disons d'une crise ou de plusieurs crises encore plus majeures sont fortes, et que oui, il est possible qu'on ait un moment de recréation, et donc c'est très utile de penser d'après. C'est vrai que moi je pars d'un point de vue disciplinaire, hein, moi je suis historien au départ, un peu indécrottable, c'est-à-dire quelles sont les réalités de l'ici et du maintenant, elles sont telles que les gens sont attachés à leur souveraineté, alors un peu plus depuis une dizaine d'années où il y a une sorte de fièvre à la fois identitaire et souverainiste, bon, qui peut-être passera, mais la réalité c'est qu'ils sont attachés à ce cadre-là, et que le fait de combiner des identités multiples, hein, c'était un petit peu à ça que faisait référence Monique Chemillet-Gendreau, est à la fois quelque chose de précieux, d'indispensable, c'est tout le message européen notamment, mais aussi assez rare en réalité. On voit bien plus souvent des fièvres nationalistes que des leaders ou des peuples éclairés qui sont prêts à concilier ces différentes identités-là. Et donc, du coup, moi, ce qui me semble tangible, c'est de travailler avec ces réalités actuelles que sont les États souverains, que sont les autres acteurs du système international, d'essayer d'ouvrir un peu le système, de répondre aux défis qui se posent de façon assez pragmatique en alliant les uns et les autres, et sans vouloir bouleverser la situation actuelle. Et il en reste pas moins que penser l'après est nécessaire et peut se faire, à côté. Simplement, en effet, ce qu'on va faire en novembre prochain, c'est de rassembler ces États-là qui insistent sur leur souveraineté et les autres acteurs pour essayer pragmatiquement d'avancer sur la résolution du problème de la santé, du problème d'Internet, etc., etc.
Mais ça serait peut-être intéressant d'ailleurs d'inviter Monique Chemillet-Gendreau pour ce prochain forum sur la paix gestavaise. Jean-Christophe Ruffin.
Oui, moi je suis pas aussi catégorique. C'est-à-dire, je pense que si vous voulez, ce qui est en faillite pour le moment aux Nations Unies, c'est le système de sécurité collective. Ça, on est assez d'accord. Mais au fond, il l'a pratiquement toujours été, comme je le disais au commencement de cet entretien. Finalement, rares ont été les moments où ça a fonctionné. Mais donc, il ne fonctionne pas en ce moment. Mais je ne vois pas non plus les conditions réunies pour reconstruire pacifiquement, alors qu'il y a ces tensions internationales extrêmement fortes, un système différent. Et je pense que aujourd'hui, quitte à avoir un point de vue un peu conservateur, mais il faut garder les Nations Unies, ceux qui fonctionnent, et il y a quand même des choses qui fonctionnent. Je crois que là, d'abord, c'est un lieu de rencontre et un lieu au cours duquel on se parle. Or, l'histoire, malheureusement, l'histoire mondiale a montré, au XXe siècle en particulier, que quand les gens ne se parlaient plus, quand les gens ne se rencontraient plus, c'est là qu'effectivement les guerres pouvaient survenir. Donc même si les décisions ne sont pas contraignantes, les résolutions sont difficiles à sortir et encore plus à faire appliquer, d'accord, mais enfin c'est quand même un endroit où il y a une interface et un contact. Et puis il y a toutes ces organisations, encore une fois techniques, hein, des Nations Unies qui fonctionnent. Donc moi il me semble que dans l'attente, disons, de conditions plus favorables, c'est un système auquel il serait dangereux de mettre à bas. En revanche, là où ce qui est plus à notre portée, si vous voulez, c'est de reconstruire une gouvernance non pas mondiale mais régionale. C'est-à-dire que, alors les deux ne s'opposent pas, mais si vous voulez, autant vraiment construire un immense système mondial avec les 193 États, etc., ça me paraît hors de portée en ce moment, compte tenu des tensions internationales, autant essayer de préserver et même de développer l'intégration européenne, la coopération européenne, etc., me paraît une responsabilité qui est, je dirais, à notre portée, parce qu'il y a là quand même des gens avec qui on peut s'entendre et cette construction peut avoir un sens.
Donc, c'est voilà. Vrai qu'il fallait quand même dire un mot de l'Europe. Tout dernier mot, parce qu'on est à la fin de l'émission. Monique Chemillet-Gendreau, ce texte, donc, qui est un livre, hein, pour un Conseil mondial de la résistance, qu'est-ce qui va devenir? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est qu'il fasse des petits dans d'autres pays?
Oui. Ça s'appelle jeter une bouteille à la mer, c'est ce que font les naufragés. Moi je considère que la situation est vraiment très grave. Je ne mets pas en cause les institutions spécialisées des Nations Unies, certaines font du bon travail, mais les Nations Unies elles-mêmes, elles se sont spécialisées dans l'humanitaire, le secrétaire général en parlait récemment, et à mes yeux l'humanitaire c'est le service après-vente des marchands d'armes.
Eh bien, ce sera la conclusion, si vous le voulez bien, pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Monique Chemillet-Gendreau, Jean-Christophe Ruffin et Justin Weiss, d'avoir participé à ces rencontres de Pétrarque qui se poursuivent demain autour de la question suivante. L'homme est-il à sa place dans la nature? Nous serons en compagnie de Vinciane Després, Alain Prochantz et Gilles Boeuf. Les rencontres sont préparées par Aurélie Marsay, réalisées par Véronique Villa, avec à la prise de son Alexandre Dang.